Chapitre 13. Onésime, au bruit que fit Cloarec en ouvrant et fermant violemment la porte, se leva surpris et inquiet. Il n'attendait plus que sa tante, et la pesanteur des pas de la personne qui venait d'entrer si impétueusement lui annonçait la présence d'un étranger. Cloarec, revenu au calme dont il était un moment sorti, contemplait silencieusement Onésime avec une curiosité pleine d'angoisse. D'abord, ses traits lui parurent agréables et doux, mais bientôt, oubliant l'infirmité du pauvre myope, qui, n'apercevant à quelques pas de lui qu'une forme vague, regardait fixement Yvon sans distinguer ses traits, celui-ci trouva qu'Onésime avait l'air souverainement insolent et audacieux. Le neveu de Suzanne, d'autant plus surpris du silence de l'étranger que sa venue avait été plus bruyante, fit deux pas à l'encontre du visiteur, afin de tâcher de distinguer sa figure, et dit doucement et en hésitant, « Qui est là ?» Cloarec, toujours oublieux de l'infirmité de ce jeune homme, trouva la question impertinente et lui répondit durement, « Qui est là ? C'est le maître de cette maison, monsieur. »« Monsieur Cloarec ?» s'écria Onésime, en circulant avec autant de timidité que de respectueuse déférence. Et il baissa machinalement les yeux, comme s'ils avaient été, hélas, assez clairvoyants pour risquer de rencontrer ceux du père de Sabine. En effet, l'accent de Cloarec était trop significatif pour qu'Onésime, doué de beaucoup de tact et de pénétration, ne sentit pas, tout en ignorant le motif de la répulsion qu'il inspirait, que sa présence dans la maison déplaisait fort au père de Sabine. Aussi reprit-il d'une voix douce et tremblante. En me rendant au désir de ma tante, qui m'appelait ici, je croyais, monsieur, que son désir avait votre agrément, ou que, du moins, elle avait la certitude que vous ne désapprouveriez pas ses bontés pour moi. Sans cela, je ne me serais pas permis d'accepter ses offres. J'aime à le croire, monsieur. Je vous prierai seulement, monsieur, d'excuser une indiscrétion dont je me suis rendu bien involontairement complice. Demain, je quitterai cette maison. Et où irez-vous? Que ferez-vous? Dit brusquement Cloarec. Que deviendrez-vous ensuite? Ne sachant quel sentiment vous dicte ces questions, monsieur, reprit Onésime avec une dignité douce, vous ne serez pas surpris si j'hésite à vous répondre. Mes sentiments envers vous peuvent être bienveillants, comme ils peuvent être aussi tout le contraire de la bienveillance. Plus tard, je verrai ce que j'aurai à faire. Vous seriez l'arbitre absolu de mon sort, monsieur, s'écria Onésime avec une respectueuse fermeté, que c'est à peine si vous me parleriez ainsi. Et qui vous dit que votre sort n'est pas entre mes mains? Et de quel droit, monsieur? De quel droit? S'écria Cloarec avec une impétuosité qui l'entraîna trop loin. Vous êtes bien rendu l'arbitre de ma destinée, vous?
Moi? Moi?
Pardon, monsieur, je ne vous comprends pas. Osez donc, s'écria Cloarec, me regarder en face en me répondant ainsi. Le pauvre myope, au lieu de se formaliser de ces mots, reprit avec une ingénuité navrante, en promenant autour de lui son vague et triste regard. « Vous regardez en face, monsieur. Hélas, je le voudrais, mais à cette distance, je ne saurais distinguer vos traits. » « C'est vrai, monsieur, répondit Cloarec moins brusquement. J'avais oublié votre infirmité. Mais puisque vous ne pouvez me voir, soyez certain que j'ai, moi, un regard auquel rien n'échappe. C'est un avantage que j'ai sur vous, je vous le signale. Je vous remercie, monsieur, mais cet avantage vous servira de peu avec moi. De ma vie, je n'ai rien eu à cacher à personne. » Ce mélange de douceur et de franchise, de mélancolie et de dignité, frappa et émut Cloarec. Néanmoins, il se roidit contre cette impression, craignant de se laisser prendre aux apparences et de ne pas apprécier ainsi froidement et sûrement la valeur morale de l'homme dont sa fille s'était éprise. « J'ai peu de pénétration, monsieur, reprit Onésime, mais vos questions, l'accent dont vous me les faites, quelques-unes de vos paroles, tout me fait croire que vous avez contre moi un grief, dont j'ignore malheureusement la cause. « Vous aimez ma fille, lui dit Cloarec, en tâchant de lire au plus profond de sa pensée. Onésime pâlit et rougit tour à tour, tressaillit, et se sentit si près de défaillir que dans son accablement, obligé de se rasseoir auprès de sa petite table, il mit son visage entre ses deux mains sans pouvoir trouver une parole. Dans le mouvement que fit Onésime pour cacher sa figure, Le mouchoir qui bandait sa plaie tomba et découvrit sa main, ainsi que l'horrible brûlure dont Sabine avait parlé à Cloarec. Celui-ci était, depuis longtemps, familiarisé avec la vue de bien des blessures. Cependant, malgré la gravité de son entretien avec Onésime, il ne put s'empêcher de frémir et de se dire « Ah, le malheureux, il doit souffrir. Il faut qu'il ait un grand courage pour supporter ainsi cette douleur. » Ce courage, joint à la douceur de son caractère, à la fermeté digne que je crois reconnaître en lui, annonce du moins un vaillant cœur. Voyant le muet abattement d'Onésime, Yvon reprit « Comment dois-je interpréter votre silence? Vous ne répondez pas. « Que puis-je vous dire, monsieur? Vous avouez donc? Oui, monsieur. Et ma fille ignore cet amour? Si elle l'ignore, ah, monsieur, je serais mort plutôt que d'oser lui en parler. J'ai toujours caché mon secret au plus profond de mon cœur. Aussi, je ne sais, monsieur, par quelle fatalité vous avez pu deviner ce que je tâchais de me dissimuler à moi-même. Et cet amour, qui l'a fait naître en vous? D'abord la reconnaissance, monsieur. Comment n'avez-vous pas cherché à vaincre un sentiment qui ne pouvait faire que votre malheur? Le croyant ignoré de tous, je m'y abandonnais avec délice. Jusqu'ici, je n'ai connu que l'infortune. Cet amour était le premier bonheur de ma vie, comme il sera l'unique consolation de la triste destinée qui m'attend. Vous deviez d'un jour à l'autre être séparé de ma fille. Vous n'avez donc pas réfléchi à cela? Mon Dieu, non. Je ne réfléchissais à rien, monsieur. Jamais. Pour le bonheur d'aimer. J'aimais sans espérance, mais aussi sans crainte et sans remords. Ainsi, vous n'étiez pas retenu par la crainte de me voir quelque jour instruit de cet amour? Je vous l'ai dit, je ne réfléchissais pas. Je ne pensais qu'à aimer. Ah, monsieur, lorsque l'on est, comme moi, par une infirmité fatale, presque entièrement isolé des objets extérieurs et à l'abri des distractions qu'ils causent, si vous saviez comme il est facile de s'absorber tout entier dans la solitaire jouissance d'un sentiment unique et profond. Mais, puisque votre vue est si mauvaise, vous ne connaissez donc parfaitement les traits de ma fille. Depuis le temps que j'habite cette maison, c'est seulement ce soir que j'ai vu distinctement Mademoiselle Sabine. Et pourquoi ce soir plutôt que les autres jours? Parce qu'elle a bien voulu aider ma tante à panser une blessure que j'ai à la main. Et c'est en daignant me donner ses soins que Mademoiselle Sabine s'est assez approchée de moi pour qu'il me fût possible de distinguer parfaitement ses traits. Alors, qu'aimiez-vous donc en elle, puisque c'est à peine si vous connaissiez ses traits? Ce que j'aime en elle, monsieur, s'écria Onésime, c'est son noble et généreux cœur, c'est la grâce de son esprit, l'aménité de son caractère. Ce que j'aime en elle, mon Dieu, mais sa présence, sa voix si touchante, lorsqu'elle m'adresse quelques mots d'intérêt ou de consolation. Ainsi, jamais il ne vous est venu à la pensée que vous pourriez un jour devenir l'époux de Sabine? Ah, monsieur, je l'aimais trop pour cela. Que voulez-vous dire? Oubliez-vous donc, monsieur, que je suis à demi aveugle, que je suis, par cette infirmité, à jamais voué à la pitié, au ridicule, à la misère ou à une humiliante oisiveté? Moi, qui ne puis jamais être qu'un fardeau pour ceux qui s'intéressent à moi? J'aurais osé? Ah, monsieur, je n'achève pas, non, non, je vous le répète, je vous le jure, j'ai aimé. J'aime, Mademoiselle Sabine, comme on aime le beau, le bien, sans autre espoir que la céleste félicité que porte en soi l'amour du beau et du bien. Voilà, monsieur, ce que j'ai éprouvé. Voilà ce que j'éprouve encore. Maintenant, si ma franchise vous touche, daignez me promettre, monsieur, qu'en quittant cette maison, j'emporterai du moins votre estime. Cette estime, vous l'avez acquise, vous la méritez, Onésime, répondit Cloarec d'une voix émue. Et après cette assurance, vous me permettrez, n'est-ce pas, de vous demander ce que vous comptez faire en sortant d'ici? Je tâcherai, monsieur, de retrouver un emploi semblable à celui que j'occupais, si modeste, si laborieuse que soit ma condition, pourvu qu'elle me permette de gagner ma vie, c'est tout ce que je désire. Mais ne craignez-vous pas que les mêmes motifs qui vous ont fait perdre votre emploi ne se reproduisent? Hélas, monsieur, si je songeais à toutes les déceptions, à toutes les douleurs qui, sans doute, m'attendent encore, je perdrais courage, reprit Onésime avec accablement. Ce n'est ni pour vous décourager, ni pour vous attrister que je vous ai fait cette objection. Vous devez en être certain. Je désire, au contraire, et j'espère trouver le moyen de vous aider à sortir d'une position dont je comprends toute l'amertume. Ah, monsieur, que de bonté! Comment ai-je mérité? L'entretien de Nézim et de Clarec fut interrompu par quelques coups précipitamment frappés à la porte de la chambre. Bientôt, l'on entendit la voix de Suzanne disant « Monsieur, ouvrez, ouvrez de grâce !» Clarec s'empressa d'aller ouvrir. À la vue de Suzanne, pâle et effrayée, il pensa tout d'abord à Sabine et s'écria « Qu'y a-t-il? Est-ce que ma fille... Rassurez-vous, monsieur. Mademoiselle est endormie, je l'espère. » Alors, de quoi s'agit-il donc? Avant de venir vous déranger, j'étais allé frapper à la porte de Le Goffin, mais là le sommeil si dur, impossible de le réveiller. Mais encore une fois, que s'est-il passé? Thérèse était allée, comme d'habitude, fermer les volets du rez-de-chaussée du côté du jardin. Elle venait d'ouvrir une des fenêtres. Eh bien? Excusez-moi, monsieur, je suis si émue. Et Suzanne disait vrai, car à l'émotion de son récit se joignait son inquiétude sur le résultat de l'entretien de Cloarec et d'Onésime. Elle reprit donc. Thérèse venait d'ouvrir une des fenêtres de la salle à manger lorsqu'elle a vu, à la clarté de la lune, les têtes de deux hommes se dresser au-dessus du mur d'appui de la terrasse d'où l'on aperçoit la mer. « Allons donc, » reprit Cloarec en haussant les épaules. « Thérèse est une poltronne. Elle aura eu peur de son ombre. » « Je vous assure que non, monsieur. Thérèse a parfaitement bien vu les deux hommes. Ils avaient sans doute escaladé le talus du saut de loup, et certainement ils s'apprêtaient à entrer dans le jardin, mais au bruit qu'elle a fait en ouvrant la fenêtre, ils ont disparu. » « Bien que ces craintes me paraissent fort exagérées, » reprit Cloarec, « gardez-vous d'en rien dire demain à Sabine. La pauvre enfant serait dans une inquiétude mortelle. Aussi je vous recommande la même discrétion envers ma fille Onésime. » ajouta-t-il affectueusement en s'adressant au neveu de Suzanne. L'accent d'Yvon était si bienveillant pour lui qu'Onésime tressaillit de surprise. Puisqu'il lui faisait cette recommandation au sujet de Sabine, quoiqu'il fût instruit de son amour pour elle, M. Clarec admettait donc que les deux jeunes gens pourraient encore se voir, se parler. Suzanne, non moins étonnée, non moins heureuse que son neveu, faisait les mêmes réflexions que lui lorsque Clarec reprit « Il fait un clair de lune superbe. Je vais descendre au jardin et m'assurer par moi-même. »« Descendre au jardin ? » s'écria Suzanne effrayée. « Y songez-vous, monsieur, lorsqu'il y a du danger, peut-être ? » ?»« Vous êtes folle avec votre danger, ma chère Suzanne, » dit Cloarec en se dirigeant vers la porte. « Vous n'êtes pas plus vaillante que Thérèse. »« Monsieur, je vous en supplie, permettez-moi alors d'aller éveiller Le Goffin. Je frapperai si fort qu'il faudra bien cette fois qu'il m'entende. » « Excellent moyen pour éveiller aussi ma fille et l'effrayer par ses allées venues dans la maison à une heure pareille. »« Vous avez raison, monsieur, mais pourtant vous ne pouvez pas ainsi aller tout seul. »« Eh bien, que faites-vous, Onésime ?» dit Cloarec en voyant le jeune homme se diriger de son mieux vers la porte, dessein qu'il n'accomplit pas sans avoir heurté plus d'un meuble. « Où allez-vous donc ?»« Je vais sortir avec vous, monsieur, si vous le voulez bien. »« Et pourquoi faire ?»« Ma tante parle de quelques dangers, monsieur. » « Vous, mon digne garçon, » dit Yvon en souriant avec bonté, car le dévouement d'Onésime le touchait, « et de quel secours me seriez-vous ?»« Il est vrai, monsieur, j'oubliais que je ne puis vous être bon à rien, » répondit le pauvre myope avec un soupir de résignation mélancolique. « Mais enfin, s'il y a quelque danger, du moins je le partagerai, je serai là, près de vous. Et si ma vue est détestable, heureusement, par une sorte de compensation, j'entends de fort loin. » Cela pourrait peut-être servir à connaître la direction que ces hommes ont prise s'ils sont restés dans les environs. Cette offre naïve était faite avec tant de sincérité que Cloarec, échangeant avec Suzanne un regard d'intérêt et de compassion pour Onésime, lui dit « Je vous remercie de votre proposition, mon digne garçon, et je l'accepterai de bon cœur si vous n'aviez pas besoin des soins de votre tante pour panser cette blessure que vous avez à la main. Elle est à vif et à l'air. Cela doit vous faire beaucoup souffrir. Ainsi donc, Suzanne, ne vous occupez pas de moi, mais de votre neveu. » Cloarec sortit de la chambre et se rendit au jardin. La lune éclairait au loin les flots alors immobiles, car cette terrasse dominait la mer que l'on apercevait au loin à travers la large échancrure d'une falaise. Cloarec, presque convaincu que la servante avait été dupe d'une illusion causée par quelque jeu d'ombre et de lumière, s'approcha du parapet de la terrasse. Un saut de loup, large de 20 pieds et creux de 12, rompant la continuité de la muraille d'enceinte, clôturait le jardin à cet endroit, du côté de la falaise. Ce saut de loup était maçonné à pic, mais du côté de la terrasse, il s'abaissait en talus. Yvon regarda au fond de cet énorme fossé. Il ne vit rien. Il tâcha de distinguer, à la faveur de la clarté de la lune, si l'herbe du talus était foulée en certains endroits, ce qui eût indiqué la trace de pas récents. Cette nouvelle investigation n'amena aucun résultat. Il prêta attentivement l'oreille. Il n'entendit au loin que le sourd murmure des grandes lames de l'océan qui se déroulait pesamment sur la grève. Il crut définitivement à une folle peur de sa servante, car le pays était parfaitement tranquille, et depuis que Sabine l'habitait, jamais on n'avait entendu parler d'un vol. Cloarec allait quitter la terrasse pour regagner sa maison, lorsque tout à coup il vit, derrière un grand massif d'arbres que l'on apercevait à mi-chemin de la falaise, s'élevait une de ces fusées qui, dans la marine, servent aux signaux de nuit. La courbe lumineuse décrivit rapidement sa parabole. Le sillon de feu se dessina pendant une seconde sur le bleu foncé du ciel, puis tout s'éteignit. Cet incident parut d'abord étrange à Cloarec. Revenant aussitôt sur ses pas, il jeta les yeux du côté de la mer pour examiner s'il ne se trouvait pas quelque bâtiment en vue pour répondre au signal qui venait de partir d'un point du littoral. Aussi loin que put atteindre le regard de Cloarec, il ne découvrit aucun navire, il ne vit rien, rien que l'immensité de la mer, dont la nappe immobile et d'un sombre azur reflétait en une traînée de lumière tremblante la vive clarté de la lune. Après avoir, pendant quelques instants, cherché à s'expliquer ce singulier incident, et croyant bientôt qu'il s'agissait de quelque signal convenu entre des contrebandiers qui, sans doute, correspondaient ainsi d'une falaise à l'autre, Cloarec rentra chez lui. Cette alerte, qui, dans d'autres circonstances, eût peut-être donné beaucoup à penser au capitaine corsaire. En la rapprochant de l'audacieux enlèvement dont il avait failli être victime, cette alerte fut bientôt oubliée pour les graves réflexions qui, chez lui, devaient succéder à l'entretien qu'il avait eu dans la soirée avec Onésime.